La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Voilà, ils sont 232 scientifiques du monde entier. Cette fois-ci, ils disent stop aux pesticides néonicotinoïdes. Un texte très court, une colonne et demie dans la revue Science, mais il est signé des plus grands spécialistes de la biodiversité, des plus grands toxicologues mondiaux. Ce texte termine en évoquant un échec mondial face à l'urgence absolue que représente la perte d'une grande partie de la biodiversité. Et Axel, pour faire écho à ce message, on reçoit l'un des signataires français du texte.
Oui Mathieu, nous sommes en direct par téléphone avec Jean-Marc. Bon matin, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes toxicologue, chercheur pour le CNRS et spécialiste des neurotoxiques, qui est la classe de produits chimiques dont les néonicotinoïdes font partie. En studio également avec nous, Marie Astier, journaliste pour le magazine Reporter.net, qui est partenaire de cette une. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc, bon matin. Cette publication dans Science, courte et très incisive, elle représente quoi pour vous? C'est le ras-le-bol des scientifiques?
Non, on ne peut pas dire que ce soit un ras-le-bol, mais les scientifiques que nous sommes, les plus grands spécialistes, je pense, au monde sur ces sujets, sont tout à fait d'accord et veulent témoigner. Nous avons un devoir d'alerte par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que nous avons une position privilégiée, puisque nous conduisons des études scientifiques sur le sujet. Et donc, ce devoir d'alerte nous oblige à témoigner auprès du public, bien sûr, mais surtout auprès des gouvernements et des décideurs pour que des décisions rapides et efficaces soient prises.
Quand vous dites un devoir d'alerte, peut-être il faut préciser ce qui est en train de se passer pour que vous en soyez venu à publier à 250 pour dire « il faut s'arrêter ».
Très brièvement, ce sont les apiculteurs qui les premiers ont donné l'alerte en France il y a une vingtaine d'années sur ces neurotoxiques systémiques, donc qui contaminent l'environnement, et parce que ce sont en fait les abeilles mellifères qui ont été les premières victimes visibles de l'impact de ces pesticides qui sont utilisés ultra massivement sur la planète aujourd'hui. Ensuite, ont été conduites des études scientifiques, donc à peu près un bon millier d'études scientifiques que nous avons résumées, nous, dans une méta-analyse. Et le résultat de ces études scientifiques est sans appel. Alors, à part les industriels qui commercialisent ces produits, bien sûr, qui défendent leurs pesticides, sinon, tous les autres trouvent que l'impact est inacceptable sur les abeilles, sur les invertébrés terrestres, sur les invertébrés du sol, sur les invertébrés aquatiques. Pour faire court, je dirais sur toute la cascade de la chaîne alimentaire, puisque ces invertébrés sont à la base de la chaîne alimentaire pour d'autres espèces, qu'elles soient insectes, que ce soit des oiseaux, que ce soit des amphibiens, et toute une longue liste d'organismes vivants qui constituent la pyramide de la biodiversité. Tout en haut, nous sommes, nous, les hommes, mais si vous supprimez la base de cette pyramide, qui est en fait un château de cartes, les conséquences seraient dramatiques pour la biodiversité et pour la vie sur la planète. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop, et nous avons voulu le faire d'une manière concise dans une publication scientifique la plus prestigieuse, et c'est destiné à ceux qui nous gouvernent.
Marie Astier pour Reporter.net.
Je me demandais depuis quand ça existe, les néonicotinoïdes? Ça a été très rapide leur effet sur la biodiversité.
Jean-Marc, bon matin.
En fait, ils ont été commercialisés dans le milieu des années 90, petit à petit, et ils ont eu un succès commercial extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis l'utilisation préventive et massive pour protéger les cultures au départ. C'est-à-dire que sans savoir s'il y aura des ravageurs ou pas, on traite au moment du semis en enrobant la semence du pesticide. Donc 100% des cultures étaient traitées dans plus d'une centaine de pays, ce qui fait qu'on déverse aujourd'hui à peu près 20 000 tonnes de ces insecticides dont, je le rappelle, ils agissent au nanogramme. Donc ça fait une quantité phénoménale potentielle pour tuer la vie sur la planète, et c'est exactement ce qui se passe.
Jean-Marc, bon matin. Il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser pour une fois qu'on est pionnier. Ces molécules, ces néonicotinoïdes et toutes celles qui y ressemblent sont désormais interdites en France. C'est récent, mais c'est fait.
Alors, la France a été un des premiers pays à autoriser ces molécules, et donc c'est pour cela que c'est en France qu'on a vu les premiers ravages. Par exemple, aux États-Unis, ils n'ont utilisé ces molécules que vers les années 2005, et c'est juste à ce moment-là qu'est apparu ce qu'on appelle le colony collapse disorder en anglais, c'est-à-dire l'effondrement des populations d'abeilles. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les États-Unis arrivent 10 ans derrière nous et j'espère qu'ils n'attendront pas 10 ans pour suivre les décisions françaises et européennes, puisque la France a interdit, enfin a voté un amendement en 2016 qui interdit purement et simplement l'usage de tous les néonicotinoïdes sur le territoire à partir du 1er septembre 2018.
Est-ce que malgré l'interdiction, les dégâts sur les insectes vont continuer ?
Alors le problème, c'est que 20 ans d'utilisation de ces néonicotinoïdes, mais une utilisation massive partout, ont fait qu'il y a une pollution maintenant généralisée de l'environnement, que ce soit le sol, l'air et les eaux de surface, et même les eaux profondes. Pour ceux qui disparaîtront le plus vite, ça prendra à peu près 5 ans pour qu'on soit débarrassé, et pour ceux qui disparaîtront le moins vite, ça prendra plutôt 30 ans. Donc on n'est pas sorti de cette affaire, mais ce que nous les scientifiques nous disons, c'est qu'il est urgent d'en sortir, puisque plutôt on en sort, plutôt on prononce des décisions politiques fortes sur ces sujets, plutôt on sera débarrassé de ces produits.
Jean-Marc Bonmatin, on peut faire confiance aux industriels pour créer de nouvelles molécules aussi dangereuses que les néonicotinoïdes ? Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver ?
En fait, les industriels, quand on interdit un produit, tout de suite ils replacent sur le marché un autre produit, souvent qui ressemble beaucoup, et puis le tour est joué, si j'ose dire. Là, ce qu'on a voulu, on a fait pas mal d'études sur ce sujet, on a voulu remettre en question un peu ce système agricole qui utilise massivement les pesticides, parce que la pollution environnementale, et qui finit dans nos assiettes et dans nos verres, hein, cette pollution environnementale a des conséquences graves, notamment sur la santé humaine. Donc on a voulu étudier le bien fondé de l'utilisation des pesticides, et je vais vous donner le résultat très rapidement. D'une part, dans l'immense majorité des cas, ils ne servent à rien. C'est-à-dire que les cultures ne sont pas attaquées par les ravageurs, ou si elles le sont dans une mesure qui est extrêmement faible, donc qui ne nécessite pas qu'on traite tout et tout le temps. Et d'autre part, on s'est rendu compte que le bénéfice pour le monde agricole n'était pas là. C'est-à-dire que les insecticides, en particulier ceux-là, coûtent très cher. Et lorsqu'on s'en passe et qu'on remplace par des techniques alternatives qui marchent très bien, l'ANSES vient de publier un rapport d'ailleurs sur ce sujet qui montre que dans 78% des cas, on n'a même pas besoin de pesticides chimiques. Donc lorsqu'on remplace les pesticides par des techniques alternatives qui marchent très bien, qui ont été éprouvées, eh bien les cultures prennent de la valeur, elles se vendent plus cher. Donc pour le monde agricole, c'est gagnant du côté des économies de pesticides et c'est gagnant parce que la récolte est vendue plus cher. Donc en fait, d'une part, ils ne servent pas à grand-chose, et d'autre part, sans eux, les bénéfices des agriculteurs seraient plus élevés.
Merci beaucoup Jean-Marc Bonmatin. Je rappelle que vous avez été un des signataires français justement de ce texte paru vendredi dans la revue Science. Merci beaucoup à vous d'être intervenu aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis Marie Astier, on jette un coup d'œil au sommaire de reporter.net.
Alors aujourd'hui, à la Une de Reporter, il y a le quatrième volet de notre enquête sur les compteurs dits intelligents Linky.
Ah oui,
voilà,
ça défrait la chronique.
C'est ça, il y a une très forte opposition, on a voulu comprendre pourquoi ça mobilisait autant les gens. Et le papier d'aujourd'hui, on part en Allemagne et en Autriche, où le développement de ces compteurs pose problème, notamment sur la question de la protection des données personnelles.
Merci beaucoup Marie Astier. Axel, à demain.
Et à demain,
pour
Mathieu.
Une nouvelle Une de la Science.